Alors, merci à vous tous d'être présents. Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons toucher quelques points que nous avons déjà développés durant la semaine. Toutefois, étant donné qu'il s'agit de sujets très pointus et très importants dans le judaïsme, d'une manière générale, je pense nécessaire d'y revenir. Tout d'abord, il faut savoir que Ishmaël est né comme un enfant de Abraham et Hagar lorsque Abraham avait 86 ans. Cette information est très importante car en réalité, cela veut dire que Ishmaël est l'enfant de la nature. La nature en hébreu, Hateva, nous font remarquer les sages, a pour valeur numérique 86. Autrement dit, si Ishmaël naît lorsque le papa a 86 ans, c'est comme s'il était l'enfant du monde naturel. Ce qui lui manque en réalité, c'est un degré d'esprit, et donc il n'est que matière. C'est un enfant qui est lié aux lois inhérentes à la création du monde et à toutes ses frontières, à toutes ses structures naturelles. Face à cet enfant Ishmaël, Yitzhak, qui est lui aussi le fils d'Abraham, mais cette fois-ci avec Sarah, notre mère, est né lorsque Abraham a 100 ans. Il y a donc une différence énorme entre la naissance d'Ishmaël à 86 ans et la naissance de Yitzhak lorsque le papa a 100 ans. Le chiffre 100 est relatif à une entité, à une complétude. Le chiffre 100 est en réalité indicateur que Yitzhak est le fils de l'étage supérieur d'Abraham. Il n'est pas seulement le fils de la nature comme Ishmaël, obéissant aux lois de la nature, mais un fils qui est au-delà, qui a la possibilité en tout cas d'être au-delà du monde naturel et de ses lois. Autrement dit, on peut dire que Yitzhak est l'enfant du non-rationnel, alors que Ishmaël est l'enfant du rationnel. Ce qui est visible, en tout cas, au premier regard des hommes, c'est ce qu'on voit chez Ishmaël. Ishmaël va donc apparaître comme l'enfant de ce monde, correspondant à ce monde. Alors que Yitzhak a du mal, quelque part, avec la notion de ce monde. Remarquez bien que chez nos sages, il est une expression qui appelle les nations du monde. Alors que lorsqu'on parle d'Israël, si les nations sont les nations du monde, cela veut dire que Israël ne fait pas partie des nations du monde. Car pourquoi faire la différence entre les nations du monde et Israël? Autrement dit, le peuple d'Israël est un invité dans le monde des nations. Et donc, Yitzhak ne fait pas partie du rationnel humain, cérébral, comme l'est son frère Ishmaël. Yitzhak est donc en dehors des lois qui gèrent la création tout entière. C'est pourquoi il va engendrer dans la génération de cette époque où il est né, le rire. la notion de rire est une notion très importante parce qu'en réalité, le rire apparaît au moment où on ne sait pas comment faire face à une situation qui dépasse notre entendement. Il y a ici un élément étranger au système de la nature avec toutes ses règles. En hébreu, nous disons, et vous connaissez déjà ce jeu de mots, que le rire, tsrok, c'est justement parce qu'il y a une sortie des lois, quelque chose qui n'est pas obéissant aux lois de la nature, quelque chose qui sort de ce système. C'est chok, tsrok. C'est chok, sortir des lois, c'est le tsrok, c'est le rire. Je veux dire par là que si vous deviez traduire réellement la notion de tsrok, il faudrait dire, au lieu de rire, en dehors de la nature, en dehors des lois. C'est la véritable traduction du mot tsrok, le rire. On rit parce que quelque chose a défié le cheminement naturel. Quelque chose est sorti du système. Cette sortie, en réalité, du système naturel terrestre, la nature en hébreu se dit teva, il s'agit d'une bague, tabat, dans laquelle Akadosh Baruch Hu gère le monde dans un système circulaire, alors que lui est le gérant du système de la droiture. Bien entendu, à Kadosh Baruch Hu, le droit qui tzadik veyachar hu a créé ce système circulaire. En mathématiques, je dirais que la droite a créé le cercle. Et il faut trouver à l'intérieur du cercle la fameuse droite. En tout cas, une tangente. Le peuple d'Israël ne trouve pas une tangente. Le peuple d'Israël trouve le centre même de ce cercle. Ce qui est encore un élément supplémentaire. C'est-à-dire que le peuple d'Israël sait où se trouve l'axe qui introduit le mouvement dans ce cercle. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut faire passer un message à Abraham, il fait un acte qui est complètement anodin et contraire à la logique humaine. Le verset nous dit clairement « Vayotze oto hachutza ». Il le fait sortir dehors. Dehors de quoi ? Comment Akadosh Baruch Hu fait sortir ? On imagine qu'il lui prend l'épaule, il le prend par le cou et il sort avec lui pour se balader en dehors de sa tente. Pas du tout. Il s'agit là d'une sortie de la nature. Et Rashi, immédiatement sur place, nous dit que Dieu fait sortir Abraham de son système naturel, celui qu'il a vu naître. Vous savez qu'Abraham, lorsqu'il est né, selon la nature, la date, l'heure, le jour de sa naissance, n'aurait rien pu faire dans sa vie. En tout cas, pas du tout au niveau de l'engendrement. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah non plus d'ailleurs. Elle n'avait même pas les membres nécessaires à une femme pour tomber enceinte et pour engendrer. Pourquoi les sages se fatiguent à nous raconter ce genre de détails ? Mais tout simplement parce que on veut bien nous faire comprendre que la source même de l'apparition, la graine de l'apparition du futur peuple d'Israël, cette graine commence dans une situation anormale, en tout cas dans la normalité de ce monde. Israël est donc un peuple anormal, est un peuple hors nature, est un peuple qui va défier les lois et les règles de la nature. Et donc, pour faire sortir ce peuple d'Israël des entrailles d'Abraham et de Sarah, il va falloir atteindre quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu. Abraham a 100 ans. C'est un degré absolu. C'est un degré de complétude. Ce n'est plus le degré d'Ishmaël 86. Il y a ici un élément supplémentaire qui exige la création d'un peuple qui va devoir être beaucoup là-bas et un peu ici. Un interface entre le dehors et le dedans. Quand je dis dehors, je fais référence à Vayotze Oto Achutza, ce fameux verset que je vous ai cité tout à l'heure, où Abraham, Akadosh Baruch Hu, va le sortir et Rashi sur place, c'est Mitstagninuchilcha. Je te fais sortir des astres. Vous savez que les astres ont une influence sur nous. Aujourd'hui, la science le prouve. Il y a une interaction entre la Lune et des changements au niveau terrestre, marée haute, marée basse. Les étoiles ont une influence sur la vie sur Terre, le Soleil. Eh bien, lorsque Dieu est obligé, entre guillemets, de faire sortir Abraham de ses constellations, de toutes ses étoiles, de tous ses astres, ça veut dire en réalité, je te place, je te montre en tout cas, que tu es au-delà, au-dessus. Et pourquoi je dis au-dessus et non pas à côté ? Mais tout simplement parce qu'il y a une expression en hébreu que Dieu dit à Abraham, Habet na hashamaim, ou spor hakochavim. Habet, regarde. En français, on ne voit pas la différence entre les histakel ou les habit. Les histakel, c'est aussi regarder. L'irot, c'est encore voir. Quelle est la notion de habet? Pourquoi l'expression de Dieu est habet na hashamaim? Eh bien, apprenez encore une règle dans l'Ulpan que vous n'avez peut-être pas terminé tous. C'est que les habit en hébreu veut dire toujours, toujours, du haut vers le bas. Anim habit me achalon. Je regarde de la fenêtre, mais vers le bas, vers la rue. Je ne peux pas dire en hébreu « anim habit la shamaim » du bas vers le haut. Je ne peux pas utiliser ce verbe « lehabit » alors qu'il s'agit du bas vers le haut. C'est toujours du haut vers le bas. Je reviens à mon verset. « Akadosh Baruch Hu fait sortir Abraham et il le place, comme je vous l'ai dit, au-dessus des astres. Et c'est pourquoi il utilise le verbe habet na hashamaima. Regarde maintenant le ciel, mais cette fois-ci, c'est du haut vers le bas. Autrement dit, je te place à un niveau qui est au-delà des cieux. Ce n'est pas que je t'élève au-dessus des cieux. Je viens te raconter que tu viens de là-bas. Donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va faire sortir Abraham de tout ce système naturel terrestre, logique, cartésien, avec les lois, c'est pour lui dire, toi, tu es différent. Et je ferai de toi une nature différente, un peuple différent qui est hors nature, qui n'obéit pas aux lois de la nature, qui est capable de transcender toutes ces lois. C'est d'ailleurs comme cela que va naître donc Yitzhak. Yitzhak ne va pas naître d'un papa naturellement fécondable, fécondé, qui féconde son épouse. L'épouse ne peut pas être fécondée. Le papa ne peut pas féconder. Rien ne peut marcher au niveau des lois de cette nature. C'est seulement en sortant Abraham, en le hissant au-dessus de toutes ces lois, qu'il va être capable d'engendrer Yitzhak. Vous comprenez maintenant que Yitzhak est appelé au nom du rire qu'il va provoquer chez tout le monde. Ça fait rire quand même, un papa de 100 ans et une maman de 90 ans. C'est impossible d'avoir un enfant, d'autant plus que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. La preuve, c'est qu'elle est allée chercher Hagar. Donc, nous sommes là face à une situation très complexe qui va donner naissance à la racine, à la graine même du peuple d'Israël. Je vous rappelle que le peuple d'Israël, bien qu'étant sorti des butins d'Abraham, le véritable enfant Israël premier qui est circoncis à l'âge de 8 jours, c'est Yitzhak. Abraham a subi sa Brit Mila à 99 ans. C'est-à-dire qu'il y a ici un cheminement énorme pour arriver à devenir le porteur de la nation d'Israël. D'ailleurs, pourquoi Abraham et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas Achour? Pourquoi pas d'autres personnages qui étaient aussi grands, sinon plus qu'Abraham au niveau de leur sainteté? Mais tout simplement parce qu'il s'agit là d'un porteur d'âme qu'Akadosh Baruch Hu est en train de mettre en place. Car la notion Israël est une notion tellement vaste, tellement énorme, que nous posons la question qui va être le porteur réel pour faire venir, cristalliser cette pensée divine qui s'appelle Israël. Qui va être le porteur de la première graine, du premier enfant qui va porter en lui les enfants d'Israël qui vont eux-mêmes s'avérer être un peuple qui va être lui-même le porteur des valeurs de Dieu dans ce monde. C'est compliqué. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, il y a une sélection. Ce n'est pas tout Abraham qu'on va prendre. La preuve, c'est qu'on a déjà sorti de lui Ishmaël. Ce n'est pas tout Yitzhak qu'on va prendre. La preuve, c'est que va sortir de lui Esav. Donc, il y a une forme d'entonnoir dans laquelle on va dévoiler, en fait, petit à petit, arriver à la quintessence qui va donner naissance à cette nation. Ce tri est très important parce que cela nous prouve qu'Akadosh Baruch Hu élague et nettoie tout ce qui n'est pas nécessaire pour l'apparition future de notre nation. Donc il y a ici un peuple surnaturel qui exige une sortie d'Abraham de toute la nature, de tous les astres. Et donc il est une sortie des règles et de l'ordre mondial naturel tel que nous le connaissons. En réalité, Abraham va être sorti des règles connues par l'homme, par les humains jusqu'alors. Abraham, donc, est une nouvelle forme d'homme. C'est quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui va être capable de sortir, et on l'a vu, d'Égypte. Avant que ses arrière-petits-enfants sortent d'Égypte, Abraham est entré lui-même en Égypte avec Sarah, son épouse. Donc, il y a ici, en fait, une pré-histoire qui contient toute l'histoire. Cette pré-histoire est déjà vécue par Abraham pour après apparaître dans le peuple d'Israël tout entier. Comme dit le Ramban dans son chapitre concernant Bereshit, Maase avot siman labanim. Maase avot siman labanim, les actions de nos pères, ce n'est pas un signe superficiel pour les enfants. C'est gravé dans l'ADN des enfants. Autrement dit, l'ADN d'Abraham, c'est le pouvoir de sortir d'Égypte. L'ADN d'Israël, c'est le pouvoir de sortir d'Égypte. Je vais le dire avec d'autres mots. Israël ne peut pas supporter l'exil. Il est anti-exil de par sa nature profonde. Le problème, c'est qu'il faut dévoiler cette nature profonde. Car au niveau des lois de la nature normale, non profonde, la nature de ce monde, eh bien, un juif peut vivre dans la nature sans sentir qu'il n'est pas à sa place. C'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu demande à Abraham, « Lech lecha, me'artzecha, mimoladetecha, mibetavicha. » Je te demande de sortir du contexte connu, qui est en réalité un endroit qui te calme, qui te rassure. Je suis en train de faire de toi une mutation. Tu vas devenir un mutant. Tu es une nouvelle graine. Tu es une nouvelle semence dans ce monde. Je vais faire en sorte que toutes les lois de la nature se transforment pour que tu puisses sortir un jour. Et toi, et ton épouse maintenant, et tes enfants, et tes arrière-petits-enfants, un jour d'Égypte. Vous croyez que la sortie d'Égypte est une sortie en réalité, telle que vous l'avez peut-être vue dans un film, une sortie naturelle. On sort naturellement parce qu'il y en a marre. Pas du tout. Il faut savoir qu'on ne peut pas sortir d'Égypte. Les sages nous disent qu'il est impossible de sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte est de l'ordre du miracle, en tout cas de l'ordre de ce qui n'est pas logique dans ce monde. Personne ne peut sortir d'Égypte. Quand je parle d'Égypte, je parle bien entendu des astres, pas seulement du pays. Quel est le dieu de l'Égypte? Le temps. Rappelez-le. Pourquoi je dis que c'est le temps? Ben tout simplement parce que les Égyptiens se prosternaient à quel astre? Au bélier. Le bélier était le dieu d'Égypte. Or, le bélier, c'est le premier des astres des 12 mois de l'année. Donc, si les Égyptiens se prosternaient au bélier, c'est qu'ils servaient le temps. Servir le temps, c'est servir les étoiles qui gèrent le temps. En hébreu, cela s'appelle Oved Kochavim. Oved Kochavim, serviteur des étoiles, donc serviteur du temps. Je connais beaucoup de gens, même aujourd'hui, qui sont serviteurs du temps. Ils n'ont jamais le temps de rien. Le temps est devenu leur dieu. Vous croyez que les Égyptiens étaient des imbéciles? Mais faites attention, il s'agit là en réalité d'un phénomène qui se répète et qui peut se répéter chez chacun de nous. Sortir de ce contexte donc, d'être serviteur du temps, d'être serviteur de la nature, c'est en réalité sortir d'Égypte. Mais quand vous lisez le texte de la sortie d'Égypte, vous ne faites pas forcément attention à ce que je suis en train de vous dire là. Parce que sortir d'Égypte, c'est devenu une étude classique. Les enfants d'Israël étaient dans un pays qui s'appelle l'Égypte, et un jour, Dieu les a libérés. Mais pas du tout, mes amis. L'Égypte est un concept duquel on ne peut pas sortir, si ce n'est que tu es dans ta nature la plus profonde, au-delà des lois naturelles. C'est ça le secret. Donc ne peut sortir d'Égypte que le peuple d'Israël. Tant que l'Égypte restera esclave, parce que l'Égypte elle-même est esclave du temps. D'ailleurs, comment est-ce que s'appelle l'Égypte en hébreu ? Beth Avadim. C'est une maison d'esclaves, c'est-à-dire tous les Égyptiens sont eux-mêmes des esclaves. Et le peuple d'Israël est asservi chez des esclaves du temps. Vous voyez qu'il y a des degrés et des degrés dans cet esclavage. Personne ne peut sortir. Le but était de faire sortir l'Égypte d'Égypte. Vous êtes avec moi? C'est l'Égypte qui devait sortir d'Égypte. Mais ça n'a pas eu lieu. Pour l'instant, ce n'est qu'Israël qui est sorti d'Égypte. L'Égypte n'est pas encore sortie d'elle-même. Quand je parle d'Égypte, je parle de tous les pays et d'une manière précise de l'Occident et d'une manière encore plus précise de l'Europe. L'Europe n'est pas encore libérée de sa propre prison. Le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte comme un exemple, comme un extrait de la puissance de Dieu incrustée en lui, va devenir en réalité un exemple de réussite qui va enseigner aux nations du monde, en tout cas tel est notre rôle, comment les nations elles-mêmes devront un jour sortir et se libérer de leur propre Égypte. C'est pour ça que d'ailleurs la traduction « la sortie d'Égypte » en français est erronée. En hébreu, « Yetziat Mitzrayim », c'est très simple. Qui doit sortir d'Égypte ? L'Égypte. « Yetziat Mitzrayim ». Pas « Yetziat Israël mi Mitzrayim ». Ça, c'est autre chose. On ne sait même plus parler. On ne comprend même plus le texte simple, le plus simple. C'est la sortie de l'Égypte elle-même, d'elle-même. Et ça, ça n'a pas eu lieu. Ça aura lieu à la fin des temps, à la fête de Soukhot, qui en réalité est la sortie d'Égypte des nations du monde. Ce qu'Israël a déjà subi à Pessah, de cette fameuse année de la sortie d'Israël d'Égypte. D'ailleurs, lorsque Israël sort d'Égypte, le pharaon court après Israël en lui disant « Sauvez-moi !»« Uberachtem gam oti !»« Reliez-moi !» Pas « bénissez-moi !» S'il vous plaît, arrêtez avec ces traductions de noix de coco. « Reliez-moi à votre délivrance. Barichuni. » Et donc, en réalité, vous voyez qu'il s'agit là d'un phénomène surnaturel. Car sortir d'Égypte, ce n'est donné qu'à des surhommes. C'est pour ça que l'Égypte est tellement tranquille. Le pharaon n'imagine même pas que quelqu'un puisse sortir de son système. Ça n'existe pas. Il y a donc ici une nouveauté. Tout ce que je suis en train de vous dire ici fait partie de notre paracha de Vayera. Car dans cette paracha, on est en train de nous enseigner qui est notre matrice. Ça ne sert à rien de commencer à disserter sur le peuple d'Israël si nous ne savons même pas quelle est la graine qui nous a donné vie. Et si je ne comprends pas ce secret, si je ne sais pas qui est Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont nos pères, bien je ne pourrai jamais en réalité vivre selon ma véritable nature, parce que je ne connais même pas mon papa. C'est une catastrophe. Nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Et le premier d'entre eux, Abraham, il est dit le concernant, Me'ever la Nahar. Vous êtes, vous, Abraham, Yitzhak et Yaakov, au-delà du fleuve. De quel fleuve? C'est quoi au-delà du fleuve? Mais tout simplement, vous êtes au-delà du fleuve de la logique. Vous venez d'un monde qui dépasse et transcende la logique cartésienne humaine. Je dis toujours aux gens à qui je parle, qui habitent encore en dehors de notre terre, vous ne pourrez jamais arriver sur la terre d'Israël si vous restez coincé dans le monde de la logique, dans vos systèmes de calcul terrestre, cartésien. Il est impossible de quitter l'exil en faisant des calculs humains. On ne vient pas en Israël d'une manière logique, seulement si on est fou. Et en réalité, c'est ça le secret. D'ailleurs, le premier roi que nous rencontrons en terre d'Israël, je parle du temps biblique, très bizarrement, il s'appelle le roi des calculs, le roi des comptes. Melech Cheshbon, ça vous dit quelque chose? C'est extraordinaire quand même. Ça veut dire que le premier roi que je dois combattre quand je viens dans ce pays d'Israël, c'est le roi des calculs. Parce que si je tombe entre ses griffes, je ne ferai jamais mon alia. Les calculs vont me pousser à comprendre normalement, logiquement, que c'est impossible de vivre dans une terre telle que la terre d'Israël. Quand vous regardez d'une manière cartésienne ce qui se passe ici, rien ne devrait marcher. Rien. Rien. Tout est contre la logique humaine. Et bon sang, tout avance. Mais comment ça marche? Comment marche ce pays? Des gens logiques, cartésiens, naturellement, avec les lois de la nature, deviennent tout simplement fous. Eh bien, pour être ici, il faut être au-delà. Il faut s'annuler à un autre ordre. À un ordre qui est au-delà de la nature et qui domine et qui transcende toute la nature. Ce n'est pas par hasard que cette terre s'appelle Eretz Knaan. Traduction littérale, la terre où je me soumets. Knaan, les Kana. Si je ne me soumets pas à un autre ordre surnaturel, je ne peux pas exister ni subsister sur cette terre. Un instant, je ne peux pas rester ici. Tout va me pousser à quitter la terre et à repartir en exil. Les pères, donc, viennent au-delà d'un degré qui est au-delà du fleuve, au-delà du fleuve de la logique humaine, bien entendu. Les pères d'Israël sont une fabrication de ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Bina Nissit, le discernement miraculeux. Ce n'est pas le cerveau gauche que nous avons ici, la bina humaine. Car si tu restes à ce niveau-là, en réalité, ton ciel s'arrête là. C'est le ciel de ta logique, on est d'accord. Notre ciel commence là et il va vers l'infini. Ceux qui sont prisonniers du monde de la nature, eh bien, leur ciel est là. Ils ne peuvent pas monter plus que ça. Donc, ce qui sort de mon monde de calcul, de cohésion, eh bien, je ne le comprends pas, donc je ne le vis pas. Le peuple d'Israël nous dit, non, c'est ici que commence ton ciel, là où se termine ta logique humaine. Est-ce que tu es capable de faire passer ta logique humaine en second degré et pas en premier degré? Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut annuler la logique humaine, de la jeter à la poubelle. c'est un cadeau de Dieu. Mais pour analyser en deuxième lieu ce que nous avons reçu en premier lieu, c'est-à-dire le ciel infini. Voilà à quoi doit nous servir notre logique humaine, Rabotai. Notre logique humaine est là pour développer le divin qui nous a été donné, l'étudier, essayer de comprendre, de l'appréhender. C'est tout. Pas pour essayer de nous fabriquer un Dieu issu de ma propre logique. Ça, c'est de la Avodah Zara. Les gens qui atteignent Dieu par leur système cérébral, ça ne veut rien dire. En réalité, ils se sont fabriqués un Dieu. C'est leur logique qui a fabriqué ce Dieu. C'est exactement l'inverse d'Israël. Pourquoi sans arrêt la Torah prend des exemples tellement naturellement humains qu'elle va parler un langage qui nous correspond? Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Non mais franchement, Dieu, tu l'as transformé en Spider-Man? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est descendu sur le mont Sinaï? Tout simplement pour nous donner l'ordre véritable des choses. C'est toujours, toujours, toujours du haut vers le bas. C'est Dieu qui vient vers l'homme. L'homme ne peut pas chercher Dieu. L'homme ne peut que laisser le divin le traverser, mais toujours du haut vers le bas. Si tu as l'impression de monter vers Dieu, en réalité, tu es en train de cibler Dieu. Et comment est-ce que tu peux le cibler? Eh bien, avec tes mesures, avec tes moyens. Donc, c'est un Dieu humain. C'est une fabrication humaine. C'est ce qu'on appelle une idole. Lorsque Abraham comprend ça, eh bien, ça transforme sa vie. Je ne peux pas, moi, fabriquer un Dieu. Maase yede Adam, on le dit dans le Hallel. Ils se sont fabriqués des dieux avec les mains d'un homme. C'est terrible. Alors, qui fait qui? C'est Dieu qui fait l'homme ou c'est l'homme qui fait Dieu? Quand on a voulu demander aux 70 sages d'Israël de traduire la Torah, c'est l'histoire de Hanouka, avant, eh bien, la première traduction qui vient, c'est Bereshit bara Elohim. Autrement dit, Bereshit a créé Dieu. Alors que si je voulais parler dans un langage hébraïque normal, j'aurais dû dire Elohim bara Bereshit. Ne serait-ce que cette traduction-là, elle est déjà erronée parce que vous parlez en français. Or, les sages d'Israël, les 70, alors qu'ils étaient installés chacun dans une chambre séparée de son ami, ont tous traduit comme il fallait, pour ne pas justement tomber dans cette erreur que c'est l'homme qui s'est créé un Dieu pour se soulager de je ne sais quoi. Moralité, l'usine de fabrication de nos pères et de nos mères, c'est une usine qui se trouve dans ce qu'on appelle la Bina Hanissit, dans le discernement divin, que l'homme ne peut pas comprendre, mais doit accepter. Et le peuple d'Israël qui va sortir donc de ce Abraham, de ce Yitzhak, de ce Yaakov, de cette Sarah, de cette Rivka, de cette Rachel, de cette Léa, pas évident, hein? On a 3 pères et 4 mamans, plus 2 servantes. Je vous dis même pas le complexe d'Oedipe. Comment on fait avec 3 pères et 6 mères? Un homme normal devient fou. Quel est le nom de ton père? Je ne sais pas lequel tu veux. Abraham, Yitzhak, Yaakov, j'en ai trois. Bon, alors ta mère. Ah ben ça, alors ça, c'est pire. J'en ai six. Le peuple d'Israël, vous voyez que ce n'est pas logique. Je suis en train de vous prouver que nous sommes issus d'un monde qui défie la logique humaine. Le peuple d'Israël va sortir en réalité de tout ce système pour se dévoiler dans le monde. Donc nous sommes dans un monde qui est apparemment étranger à nous, ou bien nous sommes étrangers à lui, parce que c'est un monde naturel, on l'appelle Hateva, et que nous venons d'un monde au-delà de la nature. Donc comment un élément qui est au-delà de la nature pénètre la nature et transforme la nature? Je vous ai raconté en trois mots l'histoire d'Israël. C'est exactement ça qu'on doit faire. Mais pour rentrer dans la nature et ne pas se perdre dans la nature, il faut sans arrêt étudier, se rappeler, se mémoriser que nous venons de cet au-delà. Vous savez qu'il y a des anges qui descendent du ciel. La Torah nous raconte plein d'histoires. Et chaque fois, ces anges, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, ils oublient qu'ils étaient des anges. Ils deviennent des hommes. Vous comprenez ce qui se passe là? Et tout simplement, le monde angélique, lorsqu'il a le contact avec l'humain, avec la terre, eh bien, il se dit, mais c'est extraordinaire là. On est à Ibiza. On se lâche. Eh bien, tu as perdu tes ailes. Abraham, il sait que les anges sont descendus du ciel. Mais qu'est-ce qu'il voit, Abraham? Qu'ils ont de la poussière sur leurs pieds. Pour lui, ce sont des hommes. Ce sont même des Arabes, d'après Rashi. Et il les fait rentrer chez lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit de nettoyer leurs pieds. Intéressant. Ça veut dire, moi, Abraham, mon but dans la vie, tel que je l'ai compris, tel que Dieu me l'a demandé, c'est de prendre tous ceux qui sont descendus dans la poussière, de les laver et de les ramener vers leur source. Extraordinaire. Alors que Lot, il prend les anges et il les utilise en bas dans ce monde sans leur dire quoi que ce soit. Venez avec moi dans mon club humain, vous, les anges. Vous voyez la différence? C'est énorme. Abraham prend des hommes et les transforme, les ramène à l'état d'ange. Et l'autre prend des anges pour en faire des hommes. Le peuple d'Israël va sortir donc de la volonté divine initiale. Israël, alou birtsono shel habore techila. Israël, nous disent les Chachamim, c'était la première pensée de l'Éternel. Très difficile à concevoir, ce sont des notions très profondes, mais ça voudra dire tout simplement que la première pensée divine, en tout cas dans un langage humain, c'est Israël. Le problème, c'est où va s'habiller cette Neshama? Dans quel corps? Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de candidats. Chacun se dit, non, c'est moi, c'est moi. Viens chez moi. Nimrod va essayer de voler cette essence. Paro va essayer de voler cette essence. D'ailleurs, comment est-ce qu'ils font pour voler cette essence, les nations du monde? En piquant les femmes d'Israël. Puisque le judaïsme passe par la femme. Donc, il suffit de tuer l'homme et de garder la femme. La femme va tomber enceinte d'un Égyptien avec une mentalité égyptienne, donc va engendrer un Égyptien avec une mentalité égyptienne soumise à la nature, mais qui va s'appeler Israël, puisqu'elle vient cette naissance d'une maman juive. Comprenez comment ça marche? Maintenant, vous comprenez pourquoi le pharaon gardait les femmes et tuait les garçons. C'est simple. Il y a ici quelque chose d'énorme. C'est que chaque nation qui veut voler l'identité d'Israël agit de cette manière, en s'appelant lui. Moi, je suis le vrai, Vérus Israël. Alors que c'est le virus d'Israël. Quel est ce rôle, donc, à partir du moment où nous avons un tout petit peu plus avancé dans notre développement? Quel est le rôle d'un peuple qui va être issu d'un système hors nature? Eh bien, tout simplement, d'apporter à ce monde ce degré hors nature et de le dévoiler ici-bas, de traduire, de devenir un dictionnaire, voilà. Israël, c'est le dictionnaire de Dieu. Nous prenons une parole divine et nous l'expliquons aux nations du monde. Donc nous sommes un Milon, qui vient du mot Mila. Donc Brit Mila veut dire une alliance par la parole, donc un dictionnaire. C'est d'ailleurs le secret de la Mila. La Mila, c'est tout simplement prendre un homme et enlever de lui ce qui cache sa véritable nature. On appelle cela la Orla. La Orla, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle, le prépuce. Eh bien, cette Orla en hébreu, elle a une signification. Orla, ra'al, re'ala, poison. Regardez bien, ce sont les mêmes lettres. Orla égale poison. Orla égale à une couverture, à un écran séparateur qui me sépare de ma véritable structure de base que j'ai peut-être oubliée. Et donc, si je te demande, est-ce que tu veux vivre comme un enfant d'Israël, comme un peuple, parce que Dieu ne veut pas d'enfants d'Israël, il veut un peuple. Or, un peuple ne peut pas exister en dehors de sa terre. Alors, quand je demande à des Juifs qui vivent en dehors d'Israël, tu veux vivre en tant que peuple ou en tant que religieux? C'est ça le problème. La Brit Mila n'est pas seulement l'accès à l'au-delà chez l'être humain, c'est aussi la condition, écoutez bien ce que je vous dis, pour rentrer en terre d'Israël. On ne peut pas entrer en terre d'Israël non circoncis. Yehoshua, avant d'entrer en terre d'Israël, va faire la Brit Mila à tous les enfants, parce que pendant le désert, les 40 ans dans le désert, on n'a pas fait de Brit Mila. C'est bizarre quand même, non? Le désert, c'est les nations du monde. C'est comme si Dieu nous disait, en dehors d'Israël, je n'ai pas besoin que tu fasses les mitzvot. Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de dire? N'écoutez pas, effacez-le. Ce n'est pas éducatif. Mais en réalité, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire. La valeur de vos mitzvot. En tant que nation, c'est sur votre terre. Et pour cela, vous devez retrouver ce que vous êtes à l'origine. Et pour retrouver ce que vous êtes à l'origine, enlevez l'écran séparateur qui vous cache votre identité première. On appelle ça la Mila. Donc on va couper. On va enlever cette peau qui appartient au serpent. D'ailleurs, d'après la Kabbalah, on doit enterrer la peau qu'on a retirée chez le bébé et on doit l'enterrer. par terre, sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est dit « Venachash afar lachmo ». C'est la nourriture du serpent, c'est la même catégorie. Tu te rends compte que c'est ce que tu avais en toi? Tu avais ça dès ta naissance. Les femmes, à ce moment-là, toujours, c'est le moment où elles me posent la question, et les femmes? Eh bien, les femmes, dit la Gemara, font aussi la Brit Mila. Mais c'est un cours à part entière. Je ne rentrerai pas maintenant. Elles ont aussi ce prépuce qui va être enlevé. Voilà, je viens de voir une question sur mon écran. Et pour les femmes, quel est l'écran? Je vous ai dit, ça rate pas. C'est pas que je suis devenu prophète, c'est tout simplement une logique féminine que je commence à comprendre. Toujours est-il que nous sommes face à un phénomène qu'Abraham est en train de redécouvrir, car il est le porteur de ce message, donc il doit s'ouvrir complètement. Et pourquoi dans le corps? D'ailleurs, d'où nous savons que c'est dans cette partie du corps et pas ailleurs? Et il y a combien de prépuces chez l'homme? Vous savez combien il y a? C'est une Gemara claire et un Midrash. Il y a le prépuce de l'oreille, il y a le prépuce de la bouche, des lèvres, il y a le prépuce du cœur. Et toi, tu n'as rien trouvé d'autre que de couper juste là-bas en bas? D'où tu savais que c'était là-bas en bas et pas ailleurs? Ça aussi, c'est un cours à part entière. Vous croyez que les enfants d'Israël passe à l'action immédiatement, il y a des recherches pour arriver à savoir où ça se trouve, l'endroit que je dois enlever. On est arrivé déjà à la fin du cours, je n'ai même pas commencé.
On peut commencer à 6 heures la prochaine fois.
J'ai 8 pages et j'ai fait une recto. Même pas verso. En malasot. Ça veut dire qu'en réalité, le corps humain, pas l'âme, attention, il y a beaucoup de juifs qui pensent que je suis juif dans mon cœur. Oh, mon âme. Non, il s'agit ici de quelque chose au niveau du corps. La volonté divine est en train de nous dire un message ici. Je ne veux pas d'un peuple qui a l'âme pure. Ça, je sais, c'est moi qui l'ai créé. Je veux un peuple qui sache que son corps n'est pas moins pur que son âme. Seulement, il faut enlever à ce corps étranger, pour qu'il puisse retrouver son véritable degré. Himol lachem kol zachar. Je vous donne la réponse quand même, pour ne pas vous laisser en l'air. Himol lachem kol zachar. Enlevez la partie de kol zachar, de chaque masculin. Autrement dit, c'est le seul endroit parmi tous les prépuces qui fait la différence entre l'homme et la femme. Le cœur, c'est le cœur. Les lèvres, c'est les lèvres. Les oreilles, c'est les oreilles. Mais cette partie n'est pas celle de la femme. Ce n'est pas la même. Donc, Imol lachem kol zachar, les sages sont arrivés à la conclusion que c'est là-bas qu'il faut enlever. C'est ce qui me fait homme par rapport au corps de la femme. Vous comprenez comment les sages développent? Je vous fais une gemara de plein de pages en deux mots, Ken. Mais en réalité, c'est une recherche. nos sages sont arrivés à cette conclusion de cette manière-là. Il y a toute une recherche. Mes chers amis, l'heure est arrivée de conclure. Je voudrais juste vous dire, et si après vous avez une ou deux questions, que le peuple d'Israël est un peuple hors nature qui doit rentrer dans la nature pour transcender la nature et découvrir le degré infini qui se cache dans cette nature. Ça, c'est le messianisme d'Israël. Le roi Mashiach dévoile ce secret-là. Il va dévoiler la sainteté qui se cache dans la nature. Hakdusha Shebateva. Voilà toute la clé de la Torah du Rav Kook sur un pied. Toda Rabba.
Raviel, vous avez quelques questions là dans le chat que vous n'avez pas vues, qui ont été questionnées plus tôt. J'arrive pas à dire son nom. Et donc, comment faire pour aider quelqu'un à dévoiler sa véritable nature?
Alors, pour dévoiler sa nature, il faut étudier. L'étude de la Torah, c'est celle et c'est la seule qui nous fasse dévoiler. Je ne parle pas de n'importe quelle étude, attention. Je parle de l'étude de la Emouna, qui malheureusement n'est pas étudiée partout. Dans les cours que nous diffusons, c'est le degré principal parce que notre nation sait les mitzvot, connaît les mitzvot. Et quand vous entendez un cours, c'est assourd de faire comme ça, et c'est comme ça, et ça c'est assourd, et ça c'est moutard. La Torah, c'est devenu un livre de loi. Ça veut dire, il y a des avocats qui ont des livres, et nous on a aussi des livres. Rabotai, on est loin du compte. La Torah est une prophétie divine, un dialogue avec l'homme qui exige une connaissance de notre structure intérieure. Donc la réponse est très simple et courte. Il faut étudier des cours de Emouna. Quelles sont les autres questions? Alors, mon cher Patrice, je t'aime.
Alors, est-ce que 100 ans fait référence au Aleph et aux quatre branches de la Kabbalah?
Tout à fait. Les 100 ans font référence à ce qu'on appelle... Sans rentrer dans trop de détails, les me'ot, vous savez qu'il y a alafim, me'ot, asarot et yechidot. C'est-à-dire les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Dans la Torah, il n'y a pas d'autre chose que mille. Mille, c'est le plus grand chiffre. Après, c'est harbe. Rivevei, rivevot, alafei, alafim. Il n'y a pas la notion de millions, de milliards ou de trillions. Ça n'existe pas. Donc, quand je prends ces quatre degrés, les milliers représentent le monde le plus élevé qui s'appelle Atsilut. Les centaines qui font référence à Abraham, c'est le monde de Beria qui est relatif à ce que j'ai dit tout à l'heure, la Bina, c'est-à-dire le discernement. Après, il y a les dizaines, qui sont à un autre degré, et les unités, qui sont dans le monde le plus bas de Asiya.
Shalom Rav Yoel, je peux poser une question? Je suis content de te voir d'abord. Non, j'aimerais revenir sur la Brit Mila.
Moi aussi.
J'ai une question, moi, qui me vient à l'esprit. C'est vrai que, avant de rentrer en Eretz Israël, Yehoshua a demandé à ce que le peuple fasse la Brit Mila. Et comme si vraiment c'était une condition sine qua non, que la Eretz HaKodesh, donc il fallait être, on va dire, beaucoup plus kadosh pour entrer et on arrive à avoir ce degré-là grâce à la Brit Mila. Mais j'aimerais poser une question peut-être enfantine. On dit qu'Abraham Avinu dans le Midrash, on nous dit qu'il faisait toute la Torah. Il mangeait des massot à Pessah. Bon, bien sûr, on se connaît, tu as déjà répondu à ce genre de questions, etc. Mais j'aimerais aller un peu plus loin. Comment se fait-il qu'il ait attendu le tzivouï, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, pour faire la Brit Mila? Après tout, la Brit Mila, c'est, si c'est une mitzvah aussi fondamentale que ça. il aurait dû devancer l'appel.
Ta question, mon cher ami, est très pertinente et en réalité, il faut comprendre. Dans la Haggadah de Pessah, je vais essayer d'être court.
Exactement, il reste qu'une minute avant.
Je sais,
je suis désolé.
C'est pas grave. Dans la Haggadah de Pessah, vous rappelez, on dit Echad Eloheinu, Shnayim, Shlosha, Avot, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est Shmoné?
Yememila.
Shmona Yememila. Alors attends, moi je me pose une question. Il y a 8 jours de Mila ou un seul?
Ah, bonne question.
S'il y avait 8 jours de Mila, il ne resterait plus rien. Chaque jour, on coupe un morceau. À la fin des 8e jour, il ne reste plus rien.
Comme à Hanouka.
Alors qu'en réalité, pourquoi on dit Shmona Yememila? Tout simplement parce qu'il faut 8 jours à un nouveau-né pour rassembler tout le poison qui se trouve dans son corps à cet endroit précis. Chez Abraham, il fallait 100 ans pour que le mal se concentre dans sa bride, et c'est seulement à 100 ans qu'il pouvait enlever et nettoyer complètement. S'il avait fait avant, le poison aurait été diffusé dans son corps et Chas v'Shalom, le peuple d'Israël, ne serait pas sorti. C'est pour ça qu'on dit Shmonat Yememila, parce que réellement, chaque jour, il y a avancé du mal, de la notion de mal, dans ce degré de prépuce. Et donc, tout est concentré le 8e jour, et là, on l'enlève. Chez Abraham, il fallait 100 ans pour arriver à concentrer le mal dans cet endroit.
Bon, d'abord, Rav Yoel, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions au Rav Yoel en envoyant un mail à question@ravyoel.com. Je vous l'écris dans le chat, comme ça vous l'aurez. Bien être à l'heure.
Darabat, Sadikim, merci beaucoup pour votre participation qui aujourd'hui est montée beaucoup plus que la fois précédente et j'espère que ce sera de plus en plus comme cela.